J'ai choisi le texte du jour qui appartient au texte dit du temps de l'Église. Excuse-moi. Les Sadducéens, c'est dans Luc, chapitre 20, versets 27 à 34. Quelques-uns des Sadducéens qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection s'approchèrent et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et qu'il a une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Et il en fut de même des 7, qui moururent sans laisser d'enfants. Après eux, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts, ne prendront ni femme ni mari. Ils ne pourront pas non plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. » Nous chantons le cantique dans le petit recueil bleu, Louange et prière, et c'est le cantique 135, entonnant un saint cantique, les 3 strophes.
Thank you.
Nous prions Dieu. Ô Éternel, au moment où nous allons méditer les Écritures, donne-nous d'y plonger nos visages comme dans une source inédite qui éclaircisse nos voix, libère nos conversations, nous autorise à parler et à écouter. Donne-nous, entre les pages ouvertes, de sentir craquer la jointure de notre monde, de sentir trembler les portes de notre monde et les yeux, soudain levés vers notre monde, d'entrevoir son ébranlement, de voir qu'il n'est pas fini. Donne-nous d'être intrigués, retardés dans nos courses fébriles ou apeurés, dans notre lecture trop rapide, non seulement de tes Écritures, mais de nos existences, de notre temps et de notre monde. L'évangile de Luc ne relate qu'une seule fois une discussion sur la résurrection des morts. C'est le texte d'aujourd'hui qui nous fait part d'une discussion entre Jésus et les Sadducéens qui étaient à l'époque à la tête du pouvoir religieux. On remarque d'ailleurs qu'ils commencent leur récit par dire « ce que Moïse a prescrit pour nous », ce qui est déjà une manière de s'approprier les Écritures. Dans leur théologie, ils sont très conservateurs et ne reconnaissent que les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, le Pentateuque. Il est intéressant de voir la divergence de point de vue entre les deux interlocuteurs, étant donné que les Sadducéens ont une vision plus concrète de la résurrection, en la voyant simplement à travers la descendance. Leur approche est donc assez actuelle et facilement appropriable à notre époque. Cependant, nous remarquons qu'ils s'adressent à Jésus en l'appelant « maître ». Il ne s'agit pas de créer une polémique ou d'imposer leur point de vue. Ils présentent leur problématique sous la forme d'une histoire. De cette femme et de ses 7 frères. Est-ce qu'ils tendent un piège à Jésus ou désirent-ils véritablement approfondir leur lecture et leur foi? Nous voyons que Jésus répond de manière habile en s'appuyant de nouveau sur Moïse. Mais avant tout, qui sont les Sadducéens? Ils se réclament de Sadoc, qui était décrit comme l'un des principaux prêtres sous le règne de David. C'est un des 4 grands courants du judaïsme antique avec les pharisiens, les esséniens et les zélotes. Dans ce texte, les représentants de ce courant s'interrogent uniquement sur l'après, en commençant leur question par « à la résurrection ». À l'inverse, Jésus considère que la résurrection reflète le vécu en ce temps présent. Les Sadducéens s'appuient sur ce qu'on appelle la loi du Lévirat dans Deutéronome 25, versets 5 à 6. Je le lis. « Lorsque des frères habitent ensemble, si l'un d'eux meurt sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas au dehors avec un étranger. Son beau-frère ira vers elle, il la prendra pour femme et il remplira envers elle son devoir de beau-frère. Le premier-né qu'elle mettra au monde portera le nom de son frère défunt, afin que son nom ne soit pas effacé d'Israël. » Cette loi reflète que la préoccupation principale est de laisser une trace dans l'histoire par sa descendance et ainsi prolonger le destin d'une famille, d'un peuple. Aucun des sept frères laisse une descendance et par ce fait, l'histoire des Sadducéens s'inspire aussi de l'histoire de Tamar dans Genèse 38. Er, qui est le fils de Juda, épouse Tamar et meurt sans laisser d'enfant. À sa mort, Juda dit à son fils Onan, « Va vers la femme de ton frère, agis envers elle comme le proche parent du mort et suscite une descendance à ton frère. » Ce dernier refuse sous prétexte que l'enfant ne portera pas son nom à lui et il désobéit ainsi à la loi et à son père. Derrière ces références bien connues au temps de l'Évangile, se cache la préoccupation de voir une descendance sans sortir du cercle familial. L'exemple proposé par les Sadducéens est assez exagéré. On peut difficilement s'imaginer une série pareille où sept frères meurent après avoir tenté d'offrir une descendance à un nom. Derrière leur question se cache une idée précise. Ce qui vient après la mort est un monde des ombres, le domaine sans vie du Shéol. Ils ne reconnaissent pas d'autre résurrection que celle décrite par la Torah, la loi qu'ils prennent pour leur propriété et leur héritage. Les Sadducéens sont réputés pour avoir une approche objective et littérale du texte, et ils en font une injonction du fait de susciter une descendance aux frères. Le texte de l'Évangile met justement un contraste entre les mots « susciter » et « ressusciter » et dévoile ainsi deux conceptions différentes. Avec leur exemple, ils imaginent que le contrat et la convenance sociale qui nous lie dans la vie va nous lier également après la mort, ce qui dans l'Évangile apparaît comme une absurdité. Jésus ne répond alors pas directement à leurs questions. Il n'envisage pas de trancher entre ces sept frères. Il propose finalement une lecture, une interprétation qui part d'une obligation pour aller vers une libération. Il est vrai que Jésus, par ailleurs, a un avis un peu tranché sur la vie de famille. Quand il demande qu'on quitte ses parents et sa fratrie pour le suivre, par exemple. Ici, il projette l'image du mariage comme une préoccupation bien terrestre. Jésus est critique envers ses interlocuteurs qui ne reconnaissent pas une tradition orale, mais se lient à la lettre de la loi. Leur lecture, à eux, est empreinte d'un certain matérialisme. Le Dieu qu'ils imaginent intervient finalement peu dans la vie des hommes et ainsi les humains se retrouvent entièrement responsables de leur salut. C'est ce que reflète cette fameuse règle du Lévira. Il est possible aussi de placer le récit dans son contexte historique, dans une période où la monogamie s'instaurait. Jésus renverse des rôles traditionnels. L'homme ne prend plus la femme. Il a une vision plus moderne de la femme en disant « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. » Littéralement, se marient et sont mariées. Un autre exemple est la polémique sur la viande sacrifiée selon des mœurs païens, si les premiers chrétiens de Rome peuvent en manger ou pas. Dans la lettre aux Romains, Paul demande de ne pas juger les autres selon ce qu'ils mangent. Ce n'est pas la viande que nous mangeons qui nous sépare du Seigneur. Si nous excluons l'Éternel de nos vies, ce n'est pas l'obéissance aux règles qui nous approche de lui. Paul exprime sa conviction qui rappelle la réponse de Jésus aux Sadducéens. Et il est bien de méditer ces paroles. Au chapitre 14, versets 7 à 9, Paul proclame « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. » Il me semble qu'il y a un lien avec la discussion sur la résurrection. Jésus remplace la question de la procréation par une nouvelle naissance. Et la question devient alors, comment ressusciter dans l'accueil de l'Éternel, ici et maintenant ? Dans le texte, il y a certains mots et thèmes qui dominent dans le texte de Luc. L'homme, la femme, la mort, l'enfant, le manque d'enfants. Jésus renverse plusieurs de ces catégories. De l'enfant qui porte le nom de son père biologique, Jésus met l'accent sur l'enfant de ce siècle, des siècles à venir, pour enfin évoquer les fils de la résurrection. Ici, le terme de fils est probablement figuratif. Et la femme n'a pas la même place dans le premier récit que dans la suite. Et la mort n'est plus le début du sujet débattu. Comment arrive Jésus à dire que les morts ressuscitent ? Il interprète et il donne un sens profond à cette question qui est loin d'être superficielle et donne une forte actualité à ce texte. Beaucoup de nos contemporains ont la même conception que les Sadducéens et pensent que la mort est une limite au-delà de laquelle il n'y a qu'obscurité. Ainsi, pour parler d'une vie après la mort, Jésus répond que l'essentiel est de répondre au Dieu vivant et ainsi devenir enfant de la résurrection. Un déplacement de perspective se produit quand Jésus rappelle la vocation de Moïse devant le buisson ardent dans le livre de l'Exode 3. Quand il a été appelé par le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Moïse répond présent, « Je suis là ». Moïse reçoit ensuite l'autorisation d'appeler par le nom « Je suis celui qui est », autrement dit, le Dieu vivant. Au lieu de focaliser l'homme sur sa fin ou son immortalité, Jésus déplace l'attention vers la relation rendue possible entre l'homme et l'Éternel. Ceci lui permet de répondre aux Sadducéens que pour Dieu, nous sommes tous vivants. Là où on lui propose de trancher entre la mort comme une fin définitive ou comme le passage vers l'immortalité, Jésus ouvre une nouvelle porte. Mettons-nous à l'écoute de l'Éternel dans nos situations ordinaires, comme Moïse en train de faire paître le petit bétail. Et nous entendrons la voix de l'Éternel. Il nous dira comment l'appeler. Comme Moïse devant le buisson, nous appelons Dieu de nos pères pour entrer dans la même relation. Nous espérons que ce lien dure au-delà de notre mort. Cette relation nourrit la vie et les liens avec les autres. Elle change ma vue et la manière dont j'aperçois mes limites. Et ainsi, elle me rend capable d'assumer ma fragilité. Les phrases qui posent le plus de difficultés sont peut-être les versets 35 à 36. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prendront ni femme ni mari. Ils ne pourront pas non plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Est-ce qu'il y a un groupe d'élus qui seront trouvés plus dignes que d'autres? Il me semble que ces versets demandent une certaine vigilance. Ils ne parlent pas nécessairement d'un futur après la mort, ni après la fin des temps, mais peut-être du présent d'une vie ascétique, ne plus se soucier de ce monde, mais faire partie d'une communauté qui rejette le mariage, la sexualité et la procréation. Il y a plusieurs lectures possibles. L'on peut voir ici une référence à l'idée que la proclamation, le fait de proclamer l'Évangile, relativise les relations familiales, ce qui était une réalité pour les premiers disciples et apôtres. J'y verrai plutôt, dans la suite de ce que nous avons vu précédemment, l'importance que Jésus accorde à la qualité de ce que l'on vit par la foi avec Dieu. La question essentielle n'est alors pas celle d'être marié ou non, ni même d'être mourant ou non, ni même d'être biologiquement mort ou non, tout cela étant transcendé. Ces différentes circonstances pratiques pouvant de toute façon être le lieu de la vie. Cela disqualifie la question des Sadducéens et ce qu'ils entendent par résurrection quand ils disent ne pas y croire. Dans les pas de Jésus, chacun peut appeler l'Éternel dans des moments de joie, en reconnaissance ou en protestation quand l'existence fait trop mal. N'est-ce pas dommage d'attendre les derniers moments pour le chercher, d'attendre le jour où le tapis et même le plancher sont retirés sous mes pieds? Dieu n'est d'ailleurs même pas nommé par les Sadducéens. Sont-ils athées avant l'heure? Ou leur Dieu existait-il surtout dans les Écritures? Il ne semble pas que la femme de leur récit trouve une consolation quelconque. Alors que Jésus offre ses paroles d'espérance, de libération et de consolation. Or, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Nous sommes invités à vivre par Dieu pour qui nous sommes tous vivants. Les Écritures nous enseignent que la vie avec Dieu ne commence pas seulement à la limite de la vie, ni à la limite entre la vie et la mort. Dans la lettre aux Colossiens, nous trouvons l'exhortation suivante. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non pas à ce qui est sur la terre. Amen.